parlé à Bob Denard. Mais j'ai dit à Bob Denard qu'il y a un temps champion, que ce type veut faire un reportage sur lui. Est-ce que Bob Denard est au courant que Bob Denard appelle si possible Paul Ossarel?
Alors voilà, ça c'est un extrait d'un film qui a été fait sur Bob Denard, et dans le cadre de la diffusion de ce film le 28 septembre au CICP, il y avait un débat. Un débat avec Xavier Renoux. Xavier Renoux est l'auteur, avec quelques autres, en tout cas c'est lui qui a dirigé, La privatisation de la violence, mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché. Et ça, c'est publié chez Agon dans la collection Dossier Noir, qui se fait avec l'association Survie. Alors on va revenir tout au cours de cette émission sur les propos de Xavier Renoux. Xavier Renoux qui a fait une étude conséquente, une grosse étude sur ce qu'étaient les sociétés privées, les sociétés de sécurité privées, ce qu'on appelait les mercenaires il y a quelque temps, qui interviennent un peu partout dans le monde. Alors évidemment, plus de 20 000 mercenaires en Irak aujourd'hui, ça a un petit peu focalisé l'attention, mais il montre que en Afrique, il y a toujours, en particulier en Afrique, mais dans d'autres parties du monde, c'est devenu un business relativement conséquent, et que tout ça se fait en parfaite entente et coordination avec les États. Alors on va voir un petit peu à travers ça, il nous montre quelque part que la privatisation de la sécurité, c'est un petit peu l'avant-garde éclairée du libéralisme, et ce qui se passe dans ce domaine-là, d'après lui, devrait suivre sur bien d'autres domaines. Alors on va commencer donc avec Xavier Renoux qui présente un petit peu le travail qu'il a fait et la manière dont il a abordé la question de la privatisation de la violence autour du monde.
L'ouvrage sur la privatisation de la violence, il part du constat que le mercenariat que vous venez de voir était effectivement en partie seulement passé, et qu'on avait aujourd'hui affaire à une nouvelle forme de mercenariat qui relève plus de l'entreprise. C'est amusant parce qu'à un moment, il y a un des anciens de Bob Denard qui dit on n'envoyait pas un CV, on ne signait pas un contrat. Ben, aujourd'hui, on signe un contrat et on envoie un CV. Parce que l'institution qui va recruter le mercenaire est désormais légale. Elle a pignon sur rue, elle fait de la communication, elle a un site internet et on peut lui commander un coup d'État, la formation d'une armée, l'encadrement de troupes, des services d'espionnage, etc., etc. Donc ce nouveau phénomène, c'est celui des sociétés militaires privées, private military companies en anglais. Ça vient évidemment du monde anglo-saxon où on a privatisé déjà vachement d'autres trucs, donc il restait à privatiser la guerre et la sécurité. C'est désormais partiellement chose faite. Donc loin de moi l'idée de dire que ce mercenariat à la Bob Denard a complètement disparu. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, que tout ça que ce personnage est un petit peu vieux, un peu ringard, que c'était du folklore, que c'était pas si grave, mais que de toute façon c'est fini. Ça, c'est un peu le discours de TF1 vis-à-vis de Bob Denard, qui vient de temps en temps dans des talk shows dire à quel point il aimait l'Afrique et tout ça. Mais il y a toujours ces mercenaires chiens de guerre qui se vendent au plus offrant, tous les débris des armées africaines en particulier, mais on en trouve aussi en Amérique latine ou en Asie. Mais il y a désormais un nouveau mercenariat avec des gens en cravate qui investissent, qui ont des sociétés cotées en bourse et qui recrutent des mercenaires beaucoup plus compétents, généralement beaucoup mieux formés, issus des armées occidentales les plus sophistiquées et qui servent désormais en Irak où il y a 20 000 mercenaires aujourd'hui. C'est la première guerre privatisée de l'époque moderne. Et puis en Afghanistan, à la traque au réseau supposément Ben Laden, en tout cas taliban et autres, en tout cas tout anti-américains, et ailleurs. Voilà. Donc le bouquin part un petit peu d'un rappel historique sur cette période des affreux et de l'impérialisme qui se traduisait par l'envoi de ces hommes sans foi ni loi, parce qu'on recrutait effectivement un peu n'importe où, dans les bars, par petites annonces, à l'extrême droite pas mal, et étudie l'émergence de ce phénomène nouveau des sociétés militaires privées, d'une, qui est un changement d'échelle aussi. Les conflits en Afrique sont de plus en plus énormes. Quand on pense à l'équivalent d'une troisième guerre mondiale, quand on dit ça comme ça, ça paraît complètement fou, mais il y a eu une troisième guerre mondiale, elle était en Afrique. 11 pays ont envoyé des troupes dans la guerre des Grands Lacs entre 1996 et 2001-2002, avec 3 millions de morts, une guerre complètement passée inaperçue. Et bien dans cette guerre-là, il y a eu des mercenaires employés de sociétés militaires privées aussi, envoyés par les États-Unis, la France, l'Angola et pas mal d'autres pays, en plus des armées traditionnelles. Donc, c'est ce phénomène-là. Ce qu'il y a d'inquiétant avec les SMP, c'est que parce qu'elles sont légales, elles sont accompagnées d'un discours universitaire, politique, de pas mal de gens, de pas mal de milieux, qui veut nous faire croire que c'est justement une forme de mercenariat acceptable, à la différence justement des anciens. Alors là, l'idée, c'est plutôt de noircir les Bogdanars en disant eux, c'était des foudres de guerre qui tiraient sur n'importe qui et n'importe comment. Alors que les sociétés militaires privées, ils ont des cravates, il y a un contrat en bonne et due forme, ils respectent la loi, ils n'interviennent que pour des clients démocratiques ou que dans des pays reconnus par la communauté internationale, etc. etc. Bref, rien à voir avec ceux qui commettaient des exactions et violaient les droits de l'homme impunément. Et donc dans le livre, j'ai eu à cœur de démonter l'argumentaire néolibéral, parce qu'en fait c'est un mode de raisonnement néolibéral qui se base sur l'idée que le marché peut résoudre tous les problèmes, donc y compris le problème de la sécurité et de la guerre, et de montrer à quel point tous ces arguments étaient très largement erronés, de mauvaise foi, bidons, etc., et d'ores et déjà contredits par la réalité. On a un peu plus de 10 ans de recul d'intervention de ces sociétés militaires privées, et on sait donc désormais qu'elles commettent autant d'exactions que les précédentes générations de mercenaires, qu'elles ont la même fonction, qui est toujours de maintenir une prédation sur des richesses, sur des marchés, etc. Voilà, que donc finalement, rien ne change, même si tout change. Tout change d'échelle. On a de plus en plus les groupes industriels fabricants d'armement qui se dotent de branches armées, les sociétés militaires privées, qui sont parfois liées elles-mêmes à des groupes de communication, un des plus grands groupes de communication dans le monde, L3 Communication, et qui détient CNN et d'autres grandes télés comme ça, s'est doté aussi d'une société militaire privée. Donc ça permet à la fois, on communique pour servir la soupe à certains gouvernements, en échange de quoi les gouvernements commandent des armes. Avec ces armes, on déploie une diplomatie importante, et puis on assure le service après-vente en fournissant les ingénieurs, les techniciens qui vont apprendre à manipuler ces armes, et ceux-là sont employés par les sociétés militaires privées. Et de temps en temps, on fait directement la guerre, ce qui permet d'entretenir le commerce des armes, l'accès privilégié à des richesses minières, etc. Bon, je résume en 5 minutes les 300 pages, mais...
Et les 300 pages, pas du tout, les 640 pages de son livre, Xavier Renoux, qui nous parle de la privatisation de la violence. C'était une conférence organisée le 28 septembre au CICP, et dans la salle, on lui pose la question sur l'évolution des effectifs dans la sécurité privée.
Oui, il y a vraiment un changement d'échelle. La plus grosse société militaire privée, c'est Kellogg Brown & Root, qui est une filiale de Halliburton. Halliburton, c'est un gros industriel du pétrole, ceux qui sont justement en Afghanistan ou plus en Irak. C'est 20 000 employés dans le monde. Et aujourd'hui, l'armée américaine ne peut plus intervenir nulle part sans le concours de cette société militaire privée, dont un certain nombre des actionnaires se retrouvent au gouvernement de George Bush ou du gouvernement d'avant de Bush père. On a comme ça des interactions entre les milieux industriels, d'armement et les milieux politiques conservateurs. De la même façon qu'au temps de Bogdanar, les mercenaires niaient toute relation avec les puissances occidentales, avec les services secrets, Et dans le film de Thomas, on voit bien, parce qu'ils le reconnaissent après coup, que effectivement, en fait, il demandait tout le temps le feu vert ou le feu orange, donc il n'entreprenait jamais rien sans l'accord des services secrets de leur puissance de tutelle. Et bien, on a le même phénomène avec les sociétés militaires privées, qui, de la même façon, permettent de tenir un discours d'indépendance. Elles sont indépendantes, nous n'avons rien à voir avec elles, c'est pas mon gouvernement qui les commande, et si elles font des choses négatives, et ben, ça les regarde, et oui, il faut condamner, etc. Dans la réalité, aucune société militaire privée issue d'un pays n'agira contre les intérêts de ce pays. C'est hyper exceptionnel qu'une société militaire privée comme ça franchisse la ligne rouge. Les sociétés américaines, Carlyle, Halliburton, KBR, tout ça, Dyncorp, obéissent systématiquement, et là-bas c'est formalisé puisqu'elles ne peuvent pas signer un contrat à l'étranger sans demander l'aval du ministère de la Défense américain. Donc là c'est vraiment une procédure bien rodée. Il faut l'accord du gouvernement américain. Donc il faut qu'au minimum le gouvernement américain ne désapprouve pas le contrat. En France, c'est beaucoup plus ténu, le lien, il n'y a pas cette procédure automatique. Néanmoins, le groupe Baril, de Paul Baril, ne fait jamais rien sans l'aval des services secrets français, évidemment. Et Montoya, jusque-là n'avait jamais franchi la ligne rouge, l'a franchi quand il s'est mis à tirer sur des formations françaises, des soldats français en Côte d'Ivoire. Et là, évidemment, tout d'un coup, il y a eu la répression qui lui est tombée dessus. Alors que jusque-là, toutes les exactions qu'il avait commises en Afrique passaient inaperçues. Voilà. C'est la même chose des sociétés de la plupart des pays, quoi.
Mais quel type de conséquences ça a, le développement justement de la privatisation en fait de la guerre sur le droit international, quoi, tout simplement, parce que le droit international c'est entre des États. À partir du moment où c'est une société privée qui fait la guerre, qu'est-ce qui se passe?
Alors c'est la même chose qu'avec les chiens de guerre, c'est le but du jeu, c'est de contourner justement les appareils juridiques, de contourner le principe de responsabilité. Donc, de contourner aussi les parlements, les médias, etc. Ça permet d'agir. On donne délégation à ces gens-là pour faire ce qu'ils veulent. On la donne en sous-main. Et quand on les prend la main dans le sac en train de faire des saloperies, eh bien, le principe de responsabilité est très difficile à établir. Quand dans la prison d'Abu Ghraib, on s'aperçoit que les prisonniers sont torturés par... on sait qu'on apprend qu'il y a torture dans cette prison. L'armée américaine est aussitôt accusée, elle dit, mais non, c'est pas nous. Certes, nous contrôlons la prison, mais nous avons eu recours aux employés d'une société militaire privée. C'était Cassie International, une société américaine, qui était en charge des interrogatoires. Donc, de deux choses l'une, on trouve ces gars-là, les interrogateurs, en train de torturer, soit ça fait partie de leur contrat. Dans ce cas, c'est l'armée américaine qui est coupable, soit ça ne fait pas partie de leur contrat. Mais évidemment, quand le juge demande, puisqu'il y a eu des plaintes, le juge demande à voir les contrats, on lui dit à la fois secret défense d'un côté et secret commercial de l'autre. Déjà, il a fallu trouver le juge. Est-ce que le juge compétent, c'est le juge irakien ou est-ce que c'est le juge américain? Déjà, problème. Ça se passe dans tel pays, mais en fait, ça relève peut-être de tel autre pays. Et est-ce que c'est de la juridiction internationale, commerciale, militaire? Ça devient compliqué. Mais quand on a trouvé le juge compétent, qu'on a considéré que tel juge était compétent, il faut ensuite avoir le contrat. Le contrat, il est doublement protégé, secret militaire, secret commercial. Quand on arrive à le lever, eh bien déjà, il s'est passé plusieurs années, les témoins ont disparu, ils ont renoncé à leur plainte, un accord a été trouvé. En ex-Yougoslavie, la société Dyncorp qui a été mandatée par le gouvernement croate, bosniaque, payé par les États-Unis pour former des policiers après la guerre, donc pour restaurer l'ordre, entre guillemets. Deux employés d'Incorp ont tout d'un coup dénoncé le fait que leurs collègues avaient mis en place un gigantesque réseau de prostitution pour se faire des à-côtés, en plus de leur contrat. Donc en tant que policiers, ils avaient créé un réseau mafieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Dyncorp a d'abord licencié les deux employés qui avaient l'indélicatesse de dénoncer des exactions. Et puis le juge américain s'est déclaré incompétent. Et puis, alors, les deux autres sont allés devant la juridiction du travail en disant on nous a licenciés abusivement. Puis finalement, un accord a été trouvé et tout cela a été étouffé. Et les choses ont pu continuer à l'identique en ex-Yougoslavie.
En somme, la Mégoua ignore ce que fait la Mégoua.
Oui, c'est ça. Le plan Colombie, par exemple, en Colombie, de George Bush, George Bush n'avait pas eu l'autorisation de son congrès de déployer des troupes en Colombie. Or, la Colombie, c'est vachement intéressant parce que d'abord, il y a du pétrole, il y a des terres extrêmement riches qui sont malheureusement occupées par des habitants qui gênent. C'est bien de pouvoir les évacuer. Il y a la drogue. Et puis, il y a un obstacle qui est les guerrières qui sont les guerrières d'extrême gauche. Donc, George Bush avait un discours tout prêt pour légitimer le déploiement de troupes, le discours de la lutte contre la drogue. Donc, ça marchait bien. Mais à un moment, le Parlement a dit quand même on sent bien que. Si tu veux des centaines de soldats, c'est pas que pour brûler les champs de coca, c'est certainement aussi pour attaquer la guérilla d'extrême gauche et favoriser les intérêts des multinationales. Il a eu un veto donc de son congrès en disant non, on ne veut pas que tu envoies des soldats. Alors qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a appelé une société militaire privée, plusieurs en fait, DSL, DynCorp et puis je ne sais plus qui, et qui ont déployé des soldats privés. Et du coup, il n'a aucun compte à rendre. S'il se passe des choses, il peut nier leur avoir demandé de faire ça précisément. Dans certains cas, la société peut même protéger complètement son client. Généralement, on sait quand c'est un État qui est client, on sait que c'est l'État en question qui paye, mais on ne sait jamais ce pourquoi il paye. Est-ce qu'il paye pour faire de la fumigation au-dessus des champs de coca ou pour engager un affrontement militaire avec la guérilla? Et quand il y a affrontement militaire, est-ce qu'il paye pour massacrer des villages ou pas? Donc quand il y a massacre de village, est-ce que c'est une bavure ou est-ce que c'était dans le contrat? Là, en ex-Yougoslavie, l'armée américaine a mis au service de l'armée croate contre les Serbes une société militaire privée, les gens de MPRI, qui est une des très grosses MPRI, une des très grosses sociétés militaires privées américaines. Officiellement, c'était pour leur conseiller une stratégie contre les Serbes. Et puis aussi leur enseigner les droits de l'homme. C'était dans le contrat. Et puis ensuite, juste après le départ des conseillers de MPRI, il y a eu une formidable offensive croate contre les Serbes qui s'est traduite par une épuration ethnique. On a visé non seulement les soldats serbes, mais aussi la population serbe, qu'on a fait fuir en ayant opéré quelques massacres. Donc après, tout le monde a eu peur, ils sont barrés en masse. Du coup, les terres étaient vierges de population serbe, épurées ethniquement. Qui a permis, une fois qu'on a fait le traité de paix, de dire bah, là, il y a des populations serbes, donc c'est pour les Serbes. Là, il y a des populations non serbes, donc c'est pour les Croates. Et donc, plus on vidait les territoires de leur population serbe, plus on pouvait s'emparer des territoires. Et donc, cette stratégie a fonctionné super bien. Il y a eu les massacres, il y a eu la fuite de l'exode des populations. Les Croates ont gagné. Et ensuite, tout le monde s'est demandé est-ce que c'est MPRI qui avait conseillé ça? Évidemment, pas moyen d'en trouver la preuve. MPRI est venu pour conseiller une stratégie. MPRI a dit, mais non, nous, on leur a conseillé une stratégie qui était respectueuse des droits de l'homme. En aucun cas, il fallait faire ça. Puis les autres disent, mais si, si, c'est MPRI qui nous a dit de faire ça. C'est les Américains qui nous ont enseigné ça. Bref, on n'a pas la preuve et ça a permis de faire les choses, quoi.
Alors voilà, les mercenaires sont donc aujourd'hui devenus de banals employés des sociétés militaires privées. On continue à écouter Xavier Renoux qui, cette fois-ci, répond à la question « Mais pourquoi donc le recours à la sécurité privée est-il devenu légal ?»
Le discours officiel, c'est pour réduire les budgets militaires. Si c'est l'État américain qui décide de privatiser en partie son armée et les fonctions militaires, c'est difficile de l'empêcher. Après, il y a des situations cocasses où le Canada aussi a essayé de faire pareil. Il a d'abord privatisé les médecins de guerre. Donc, en fait, il a gardé une partie de ses médecins. Un médecin de guerre, donc, c'est un médecin qui n'a pas le droit de faire grève, qui n'a pas le droit de refuser d'aller dans un endroit dangereux, etc. Il est assez indispensable à l'effort de guerre. Mais en autorisant le marché à fournir une concurrence aux médecins fonctionnaires, il pensait économiser de l'argent. Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est que tout d'un coup, il s'est mis à perdre les médecins fonctionnaires qui, à la fin de chaque contrat, ne le renouvelaient pas, passaient dans le privé, puis ensuite se vendaient aux mêmes, et vachement plus cher. Et puis, par contre, comme ils devenaient des employés civils, ils avaient le droit de faire grève, ils avaient le droit de refuser des contrats. Donc, de temps en temps, l'armée canadienne, comme en Afghanistan, ne trouvait plus ses médecins. Il y a eu d'autres cas comme ça, où l'armée canadienne a privatisé, toujours au nom de la diminution des budgets, à privatiser une partie de la marine, transport de troupes par la mer. Et à un moment, il y a eu un différend sur le montant du contrat entre la société militaire privée qui fournissait les bateaux et le gouvernement canadien. Au moment de revenir des troupes canadiennes d'Afghanistan sur le sol canadien, la société militaire privée a bloqué le bateau en haute mer et a dit, bon, à partir d'un temps, tant que vous ne payez pas, vos soldats, ils restent en haute mer, comme ça. Bon, ça, c'est cocasse. Il y a des choses beaucoup moins cocasses où on paye délibérément une société militaire privée pour commettre des horreurs. Mais justement, c'est pour ça qu'on recourt à des soldats privés. Quand c'est des soldats publics, on peut facilement mettre en cause le donneur d'ordre, qui est le gouvernement. Quand c'est des sociétés militaires privées, il faut d'abord prouver que dans le contrat, il y avait ça. Il y avait cette exaction-là. Difficile. Et là, on retrouve le schéma Bob Denard. On envoie Bob Denard. Il n'y a pas de preuve de qui le paye. Il n'y a pas de contrat. S'il fait des horreurs, c'est pas de notre faute. Si au contraire il fait quelque chose de bien, bah là on va dire oui, c'était nous qui l'avons envoyé.
Mais par exemple, si une société privée fait une chose qui n'est pas soi-disant dans le contrat, est-ce qu'après elle peut être condamnée à un terme de...
Elle peut être condamnée si sa puissance de tutelle le décide. Mais la plupart du temps, tant qu'elle ne franchisse pas la ligne rouge, tant qu'elle respecte. Le vrai contrat, c'est en fait de n'agir que pour les intérêts du gouvernement dont elles sont issues. C'est-à-dire que le jour où elles franchissent la ligne rouge, effectivement, là, elles s'exposeront à des suites juridiques. Mais les exactions sont pas... c'est pas la question. Si elles commettent des exactions au service de l'intérêt du gouvernement américain ou français ou anglais, c'est les principaux, mais il y a quelques autres aussi, à ce moment-là, ça va. Et puis si elles commettent des exactions et en plus qu'elles agissent contre l'intérêt de leur gouvernement de tutelle, à ce moment-là, on va leur rappeler qu'elles ont commis des exactions et on va les faire condamner. Et c'est rare.
Le passé, c'est le passé. faut pas essayer de touiller la merde, quoi. C'est pas.
Ah voilà, ça c'est beau comme du Bob Denard. D'ailleurs, c'en est, c'est issu d'un documentaire sur Bob Denard qui était diffusé juste avant la conférence de Xavier Renoux. Xavier Renoux qui est l'auteur de La privatisation de la violence aux éditions Agone. Et lors de cette conférence, il y avait Juliette, en fière disciple de Guillaume Yom, était partie prendre du son et ça s'entend. Alors, on va retrouver Xavier Renoux qui nous expliquait que la privatisation de la sécurité était une forme d'avant-garde du libéralisme, d'archétype du néolibéralisme actuel. Et ben justement, à ce propos, on va lui demander, est-ce que juste ça permet au moins externaliser les tâches militaires? Est-ce que ça permet de réduire les budgets militaires?
Alors non, ça reste sur le budget défense, mais théoriquement, le principe, tout ça s'appuie sur des arguments de faux bon sens. Ça paraît logique qu'effectivement, si on ne paye plus un soldat pendant 20 ans, mais juste ponctuellement quand on a besoin de lui, ça coûte vachement moins cher. La réalité, c'est comme l'intérim. L'intérim, quand c'est une journée par-ci, par-là, ça coûte moins cher. On paye plus cher la journée quand on est un entrepreneur, mais ça coûte moins cher si on fait qu'une fois de temps en temps. Sauf que dans le cas de la guerre, c'est pas une fois de temps en temps, en fait. On a besoin de maintenir des capacités, des compétences militaires, on a besoin de maintenir un niveau des équipements militaires, et puis les guerres, elles ne durent pas une journée. On croit toujours que ça va durer très peu de temps, et en fait, on s'embourbe. Et du coup, là, ça redevient vachement plus cher. Et puis surtout, ça fait concurrence avec le public. Et du coup, on perd, c'est l'histoire des médecins canadiens, on perd les soldats publics, plus personne ne veut être soldat parce que c'est mal payé. Par contre, tout le monde veut être soldat privé, vendu au même, parce que c'est vachement mieux payé. Et bref, on perd, la concurrence joue en faveur du privé. Et donc les prix remontent au bout d'un moment. Ensuite, il y a plein de magouilles, parce que les sociétés militaires privées, donc les grosses, sont très liées à des hommes politiques, ont des marchés publics, comme Bouygues quand il construit des trucs, et donc exactement comme Bouygues ou les autres, et ben, le marché public, c'est super juteux. Donc c'est pot de vin en échange de commissions, rétro-commissions, et tout le monde s'engraisse là-dedans. Donc la société, justement, Kellogg Brown & Root, encore une fois, une des plus grosses sociétés militaires privées au monde, eh bien, elle a été condamnée à plusieurs reprises par l'équivalent de la Cour des comptes américaine pour des fausses factures ou pour des dépassements de factures gigantesques, pour avoir bidonné tout un tas de trucs. Ben, elle continue de se prendre les marchés, pas de problème. On sait que au passage, ils font une sorte de blanchiment d'argent pour rétribuer tous ceux qui leur donnent les. Enfin, genre, je suis ministre, j'ai été actionnaire et même dirigeant comme Dick Cheney, de cette société. Quand je suis ministre, je lui file des marchés, en échange, elle me file des pots de vin et elle me garde une place au chaud. Quand je suis plus ministre, je redeviens PDG ou sous-PDG de la Liberton ou de KBR.
Alors on est toujours avec Xavier Renoux et si on parle de sécurité privée, de société militaire privée, quelqu'un dans la salle lors de cette conférence s'interrogeait sur le fait que les salariés, les employés de ces sociétés qui partaient à l'étranger en mission, est-ce qu'ils savaient nécessairement qu'ils allaient se retrouver dans de telles situations, dans des situations de guerre et les armes à la main face à des populations plus ou moins civiles? Réponse.
On sait parce qu'on est vachement mieux payé que dans son pays que ça comporte des risques. Mais là où tu as raison, c'est la définition même du terme de mercenaire qui devient plus flou. Pourquoi? Parce que autant de Bob Denard, c'est juste un combattant. Donc c'est facile, le mec, il n'est pas d'une armée nationale, il a un fusil, et là, il est payé pour se battre, c'est facile. Aujourd'hui, la guerre est plus sophistiquée. Donc, effectivement, qu'en est-il de l'ingénieur qu'on envoie en Afghanistan pour apprendre aux soldats américains, forces d'occupation, à manier l'hélicoptère ou à opérer les tirs de missiles? Celui-là, s'il appartient à une société militaire privée, il pourrait être ingénieur dans son pays, il serait beaucoup moins payé que là-bas. Donc, il y va clairement parce que c'est mieux payé. Il va participer à un effort de guerre. Alors certes, il appuie pas nécessairement directement sur le bouton, mais il est dans un contexte de guerre. C'est aussi pour ça qu'il est mieux payé, il prend des risques physiques qui peuvent l'amener, cas extrême, à défendre sa vie, parce qu'il est logé dans une caserne qui peut faire l'objet d'attaques, il va manipuler un hélicoptère au moment où cet hélicoptère va attaquer des positions, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Qu'en est-il aussi du cuistot ? Il y a des cuistots fournis par les sociétés militaires privées qui vont aller faire la cuisine dans les casernes construites par une autre société militaire privée, en Afghanistan, en Irak, ailleurs. Ils sont indispensables à l'effort de guerre. Si les troupes ne mangent pas ou ne mangent pas bien, elles ne combattent pas bien. Donc ce cuistot-là, il sait que ce n'est pas n'importe quel moulot qu'il va faire. Il est archi mieux payé que là-bas, enfin que dans son pays. Il peut aussi avoir une arme, voire un uniforme, parce qu'il est aussi dans un contexte où il peut avoir à défendre sa vie. Sauf qu'il n'est pas directement combattant. Alors c'est compliqué. Pourtant, de toute évidence, il relève du statut de mercenaire. Il est étranger au conflit, il y va pour de l'argent et il participe à un effort de guerre. Il est dans une logique de mercenariat. Et après, qu'en est-il du gars qui a juste vendu le marché, qui dirige la boîte, qui sort d'une école de commerce, qui est actionnaire ou qui est là? Lui, il ne touchera jamais un fusil, il n'en verra peut-être jamais en peinture. Lui, il a un téléphone, un bureau et une liste de noms. Et quand on l'appelle, qu'il décroche un marché, il appelle, c'est une boîte d'intérim. Il appelle tout le gratin, j'ai besoin d'un espion, j'ai besoin d'un mécano, j'ai besoin d'un pilote, j'ai besoin d'un cuistot, j'ai besoin d'un chauffeur, etc. Et donc c'est vraiment cette définition du mercenariat qui s'élargit avec les conflits modernes et la privatisation de la violence. Et ça rend d'autant plus difficile de recourir à la loi. Bon, d'abord, le droit international est un droit des armées, comme vous le savez, il n'y a pas de police internationale, c'est les États-Unis qui font la police, donc de toute évidence, il ne faut respecter que la loi qui les arrange. Mais surtout, la définition même du mercenaire, elle est de plus en plus floue. On ne sait plus à partir de quand on est véritablement... Enfin, on sait, bien sûr, mais il n'y a plus seulement le combattant en bout de chaîne qui est le mercenaire.
C'est quoi la chronologie justement du passage aux mercenaires de type Bob Denard à ces sociétés commerciales d'aujourd'hui?
Alors ça c'est très clair, la première société militaire privée elle apparaît en 1945, c'est pas tout jeune, mais dans un premier temps elle se contente de fournir des pilotes et des hélicos et c'est vraiment très limité. Et puis le vrai boom, premier boom des sociétés militaires privées avec Vinel Corporation, c'est la guerre du Vietnam. Ce que j'ai appris en faisant cette recherche, c'est que pendant la guerre du Vietnam, il y avait eu une forte composante de privatisation. Ça, c'est très peu connu. Et puis ensuite, on a un phénomène qui décolle, mais tout doucement. Bob Denard, à un moment, quand il s'établit aux Comores, Thomas en parle un petit moment, là.
Il essaye, mais il n'y parvient pas, en fait.
Voilà, c'est ça. Il essaie de structurer un petit peu sa garde présidentielle et d'en faire une force au service de n'importe qui pour des interventions au Tchad ou ailleurs, payées ou non par les Sud-Africains, par les Français, etc. Donc il essaie un peu de se transformer en entreprise. Mais fondamentalement, il reste un corsaire au service des services secrets. Et puis c'est encore trop tôt. Il n'y a pas encore un besoin objectif de cette dimension-là, donc de mercenariat entrepreneurial. Et puis le vrai boom, c'est la fin de la guerre froide. Quand d'abord on démobilise massivement les soldats des deux grandes armées, hein, des États-Unis et de la Russie, les États-Unis perdent 1 million d'hommes, je crois, qui sont relancés dans la vie civile. Alors il y a une partie qui retrouve du boulot, il y a une partie à la retraite, puis il y en a une partie qui sait faire que tenir des armes, donc qui va se réemployer dans le mercenariat. Et puis en Russie, c'est encore plus considérable. Je ne sais plus, c'est 2 à 3 millions d'hommes qui sont libérés. Donc on en trouve en Côte d'Ivoire, on en trouve dans plein de conflits africains, on en trouve en Indonésie et ailleurs. Donc il y a d'abord la fin de la guerre froide, la conjonction entre, d'une part, la démobilisation, donc plein de main-d'œuvre disponible, d'autre part, l'émergence des marchés financiers, le néolibéralisme arrive à son point de domination, donc on a une logique de la financiarisation de l'économie. En gros, il faut des investissements qui sont hyper rentables à court terme. C'est plus le capitalisme traditionnel où j'investis et puis j'attends 1, 2, 3 ans pour avoir un retour sur investissement. Là, je veux que en gros, mon investissement fasse augmenter la valeur de l'action à très court terme. Or, pour ça, il faut accroître, intensifier la prédation sur les matières premières, donc en Afrique. Il faut rendre rentable le conflit lui-même, pas seulement gagner une guerre. On sait toujours que les guerres, c'est pour le profit, mais jusque-là, c'était quand je gagne la guerre que je profite. Maintenant, c'est quand je fais la guerre que je profite. Donc, il faut changer de logique et arriver à une rentabilité de court terme beaucoup plus intense. ça correspond clairement au développement des sociétés militaires privées. Après, il y a aussi l'avancée du droit. Paradoxalement, plus on condamne les dictateurs, plus on surveille les gouvernements, plus ils vont chercher à détourner, à contourner les ONG, les médias, la surveillance du public, et donc plus ils vont avoir besoin de privatiser, etc., etc. Donc on a comme ça une conjonction de phénomènes qui explique le boom de l'entreprise mercenaire au milieu des années 90. Voilà. C'est là véritablement que ça décolle.
Alors, les Américains, eux, ils sont très forts. Les Canadiens, manifestement, ils sont pas mauvais. Mais alors, on voudrait savoir si les Français sont bien dans la course et est-ce qu'ils ont eux-mêmes leur société militaire privée. Réponse de Xavier Renoux.
Il y a plusieurs filières. Il y a les anciens du GIGN ou de la cellule de l'Élysée, là, les barbouzes de Mitterrand, qui ont fait des sociétés. Donc, Montoya, Baril, Le Gorju, je sais plus, il y en a 4-5 comme ça. Après, il y a des hommes d'affaires purs, donc école de commerce, capital, tout ça, comme ceux qui ont créé la CECOPEX. Enfin, CECOPEX, ils ont typique le discours management, quoi. Ils sont, les marketing, ils sont vraiment, nous n'avons rien à voir avec tout ça, nous respectons la loi, nous n'allons que dans des régimes reconnus par la communauté internationale, on ne combat pas, on n'a rien à voir, mais on est une société militaire privée, nous l'assumons. Mais à ce titre-là, nous sommes démocratiques, blablabla. Sauf qu'eux, ils vont en Chine, ils vont en Algérie, ils vont dans des coins où il y a plus d'argent que de droits de l'homme, quoi. Mais voilà. Après, il y a une autre filière qui est la filière extrême droite en France. C'est encore très marqué le milieu par l'origine extrême droite. Donc il y a tout un ensemble de sociétés qui viennent, qui sont d'abord des sociétés de sécurité, donc qui fournissent des vigiles. D'énergie aussi pour aller casser les syndicalistes, déblayer, virer toutes les machines quand le patron a mis la clé sous la porte et ne veut pas payer les ouvriers, attaque de piquets de grève. Enfin, ça se faisait beaucoup dans les années 70, mais ça n'a pas disparu. Et donc il y avait des sociétés de sécurité spécialisées là-dedans, souvent issues de l'extrême droite, Ordre Nouveau, puis le Front National. Et de plus en plus, elles se sont mises au mercenariat. Elles servaient en fait de vivier. Le mercenaire que les services secrets envoyaient en Afrique avec Bob Denard, quand il revenait en France, l'important c'était de lui trouver un boulot pour qu'on l'ait sous la main pour la prochaine fois où on avait besoin de lui en Afrique. Donc on le mettait dans une société de sécurité dirigée par l'extrême droite. Après, dans les années 80, c'était directement lié au service d'ordre du Front National, qui servait à collecter les mercenaires, à leur filer un peu d'argent entre deux missions à l'étranger. Ils défendaient les meetings du Front, etc. Et là, on a comme ça plein de sociétés de sécurité qui servent à recruter des mercenaires. Voilà. Donc on a ces trois, en France, ces trois d'origine. Voilà. Mais de plus en plus, les sociétés de sécurité facho vont disparaître au profit des hommes d'affaires en cravate, avec toujours une forte composante des gens issus des grands corps de sécurité de l'État. Parce qu'eux, ils sont branchés sur les appareils de renseignement, donc quand il y a une opération militaire à monter, ils savent demander les renseignements, où avoir les armes, etc. Il y aura toujours ces gens-là, mais les fachos disparaîtront. Ça veut pas dire que les mercenaires en bout de ligne ne seront pas fachos. Évidemment, il faut une certaine idéologie pour faire ce genre de truc. Mais leurs patrons seront simplement des conservateurs montants. Aux États-Unis, c'est déjà pratiquement plus l'extrême droite. Hein. Il y a eu dans le temps, autour du journal Soldier of Fortune, une acquaintance avec les survivalistes, tout ça, l'extrême droite, mais c'est fini depuis longtemps. Maintenant, c'est vraiment les milieux militaires, les milieux conservateurs, la CIA, tous ces gens-là, ils se recyclent dans le privé quand ils sont à la retraite. Comme ça, comme ils sont à la retraite tôt, parce que c'est le privilège des gens de ces grands corps militaires ou de sécurité, ils passent dans les affaires. Et ils continuent de faire le même métier, parfois même dans le même bureau. Ce qui pose des questions de sécurité assez fous, parce qu'à la CIA, il y a des bureaux entiers qui sont occupés par des employés de sociétés militaires privées, employés par la CIA. Et du coup, en termes de maîtrise de la confidentialité, ça devient vachement rodéo, parce qu'ils peuvent... c'est des gens qui voyagent, qui sont à un moment pour la CIA, puis après ils travaillent dans un autre truc. Alors évidemment, leur patron, c'est toujours le feu vert officiel, toujours archi-contrôlé, mais l'employé lui-même, il bouge. Donc il peut aller se servir de ce qu'il a appris dans quelque part pour le balancer à quelqu'un d'autre. Yeah!
attrape les gangsters. Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters. Déjà tout petit, il était très habile. Avec son lasso, il attrapait les taureaux. Il attrape aussi des chiens, il attrape aussi des chevals. Il attrape aussi les indiens, il attrape aussi les femmes. Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters. Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters. Jeune fille, ne cherche pas à séduire bang bang. Lui, il s'en fiche des filles, il les trouve des niches. Il les trouve des niches, il les trouve des niches. Et il trouve qu'en soirée, elles ont aucune conversation. Yeah! Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters. Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters. Bang bang le cowboy, il a un vrai cœur d'or. Un jour il a arrêté un dangereux gangster. Alors le shérif il lui a donné $1 million. Alors lui il a décidé de faire construire un hôpital. Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters. Bang bang le cowboy, il a un revolver. Bang bang le cowboy, il attrape les gangsters.
Voilà, ça c'est pas un disque de Guillaume. Alors bang bang les cowboys, on va continuer et terminer autour de la privatisation de la violence et des sociétés militaires privées, et on va retrouver Xavier Renoux. Alors ça, si j'ai pas dit 18 fois son nom, ça c'est bon pour sa notoriété. On va donc retrouver Xavier Renoux qui va cette fois nous expliquer ou répondre à la question de savoir si les sociétés militaires privées sont militairement efficaces et plus efficaces que une armée régulière.
Ça c'est compliqué, il y a des fois c'est plus efficace et des fois c'est moins efficace, ça dépend vraiment du contexte. En Liberia, Sierra Leone, les mercenaires de Executive Outcome ont été super efficaces d'un point de vue strictement militaire, mais ont aussi amené d'autres défauts, mais ça dépend parce que c'est difficile de comparer quand on amène quand des mercenaires occidentaux d'une société militaire privée riche interviennent dans un conflit en Afrique, ils sont clairement plus efficaces que les armées locales. Les armées locales ont des manques de munitions, manque d'équipement, sont pas formées, ont rien dans le ventre, donc vont aller piller pour se nourrir au lieu de combattre. Bref, donc forcément ils arrivent avec des hélicoptères, les autres n'en ont pas, donc c'est facile, ils ont canardé, ça explique les victoires. Après, si on les compare à des casques bleus par exemple, c'est compliqué. Ça, c'est l'argument des... Ah voilà, c'est ça que je voulais rajouter sur la question des bonnes causes, mais il est parti. Mais sur le... Effectivement, il y a dans l'argumentaire des néolibéraux, économistes ou hommes politiques ou universitaires, il y a l'idée que les mercenaires pourraient, s'ils sont régulés par la loi du marché, ne servir que les intérêts universels. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, traditionnellement, on avait effectivement les affreux qui faisaient des saloperies. Si le marché régule... Comme le marché est dominé par des États démocratiques, les États les plus riches sont des États démocratiques, ou des institutions internationales comme l'ONU, on peut penser qu'envoyer des mercenaires d'une société militaire privée en Afrique pour résoudre un conflit, en tout cas pour imposer la paix, serait vachement plus efficace parce que, ça semble relever du bon sens, le mercenaire il vient que pour l'argent, donc on va le payer pour faire tel contrat, quand son contrat est fini il se barre, on est débarrassé de lui. L'ONU ou les États-Unis, puisqu'ils sont des démocraties ou qu'ils obéissent à des démocraties, quand ils vont envoyer des mercenaires, ils vont les envoyer pour respecter les droits de l'homme. Ils vont leur dire, bon, faut que tu gagnes, mais tu vas gagner en respectant le droit. Et puis, du coup, comme on sait que c'est les États-Unis qui emploient ou que l'ONU emploie, les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que les autres fassent tâche. Donc, ça va se passer comme ça. Les mauvais, les méchants, les affreux vont disparaître du marché, personne ne va les employer, alors que les bons, les sociétés militaires privées qui jouent vraiment le jeu du droit international et du respect des droits de l'homme, vont avoir les marchés et tout va bien aller. Enfin, tout va aller bien de cette façon. C'est oublier que d'abord les États-Unis font aussi des saloperies, donc là ça fausse le jeu, si même les démocraties font des saloperies, ça devient plus très clair. Et puis que les sociétés militaires privées, quand elles font des saloperies, elles peuvent aussi communiquer, comme toutes les multinationales qui sont toutes supposées respecter le droit du travail et le droit du commerce, et le droit des pays, puis qui font pour beaucoup d'entre elles des saloperies, sauf que quand elles sont prises d'un main dans le sac, elles communiquent. ça coûte vachement moins cher de communiquer que de respecter la loi. Donc en fait, on risque plutôt d'avoir une segmentation du marché avec des sociétés militaires privées à bonne réputation, des sociétés militaires privées à mauvaise réputation, et puis quand moi, État démocratique, je veux faire des choses bien, j'appelle ceux qui ont bonne réputation, quand je veux faire des saloperies, j'appelle les autres, ou alors je demande à la société, c'est le mieux, à la société militaire privée à bonne réputation, de faire quelque chose de sale, sachant qu'elle, elle va faire de la sous-traitance. C'est Bouygues. C'est Bouygues. Quand il y a un chantier et qu'il y a un mec qui tombe du chantier, le gars, le chantier c'est Bouygues, mais le gars, il appartient pas à Bouygues. Il appartient à une sous-traitante qui a sous-traité, un sous-traité, un sous-traité qui arrive à Bouygues. Bouygues, on l'a payé correctement, il a sous-payé celui d'après, qui a sous-payé. À la fin, on a un marché qui a coûté pas trop cher quand même au commanditaire. Bouygues, il a pris sa marge, mais il n'a pas fait le chantier parce qu'il n'y gagnait pas assez. Il a sous-traité, la sous-traitance en cascade, c'est qu'à la fin, le gars, il n'a pas de papier, il tombe du truc, il n'avait pas l'équipement, il n'était jamais monté sur un échafaudage, et voilà. Et c'est qui le coupable? Ben, la société qui a, en dernier ressort, employé le mec, c'était un gars avec une adresse bidon, elle a disparu. On a le même phénomène dans les sociétés militaires privées, ça existe déjà, ça. Il y a les grosses qui ont pignon sur rue et qui font parfois appel aux petits, qui disparaissent dès que ça y a un coup dur. Et l'employé se retrouve, on ne sait plus qui l'employait, lui, il perd tout son bénéfice, il se retrouve comme un con, il a fait une connerie. Et voilà, quoi. Bref, c'est vraiment... ce que vous retrouvez dans le champ des multinationales, vous le retrouvez dans la guerre maintenant.
Mais quand tu dis on risque d'avoir une scission entre deux, enfin, entre les bonnes sociétés,
une segmentation du marché.
Une segmentation, voilà. Est-ce que la partie justement des bonnes actions militaires entre mille guillemets, elle serait pas justement réservée de toute façon aux armées d'État, parce que elles y sont contraintes par le droit international, alors que tout l'intérêt en fait des armées privées. C'est que justement, elles peuvent contourner via le commerce, via la privatisation, ce droit-là.
Alors oui et non. À la fois, tu as raison de dire que les sociétés militaires privées vont servir surtout à faire tout ce qui n'est pas avouable. Ça, c'est évident, sinon il n'y a pas besoin d'elles. Maintenant, il est clair aussi que quand les intérêts occidentaux sont carrément en jeu, on envoie d'abord nos armées plutôt que des sociétés militaires privées. Ça, c'est sûr. Maintenant, il peut y avoir, par exception, le cas de figure où il y a un conflit quelque part et absolument aucun intérêt en jeu. Je ne sais pas si ça existe, mais on imagine un cas d'école où il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de minerai, il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui s'entretuent et on peut imaginer que les médias disent « Ah là là, il faut faire quelque chose », l'opinion publique gueule. Alors les grands États n'ont pas envie d'envoyer leurs armées parce que ça coûte cher, parce que l'opinion publique ne voudra pas que ces hommes meurent. Donc on fait appel à une société militaire privée. À la limite. Mais des endroits où il n'y a pas d'intérêts occidentaux, c'est rare. Je ne sais même pas si ça existe. Mais bon, on peut imaginer ce qu'il y a des... Mais sinon, tu as raison, il y aura... La segmentation, c'est surtout... Soit c'est nos intérêts majeurs et on ne peut pas se permettre d'envoyer que quelques centaines d'employés de sociétés militaires privées. Alors on débarque en force, c'est l'Afghanistan, l'Irak et tout. Ou alors, on a aussi des intérêts, mais on peut se permettre de n'envoyer que des... Ou c'est pas avouable, ou on peut se permettre de n'envoyer que des... Les mercenaires, alors on envoie les mercenaires. Voilà. Donc dans le bouquin, vous avez pléthore d'infos, d'exemples sur tout ça, en fait, parce que les néolibéraux ont développé un argumentaire. En fait, c'est ça l'origine. Toi, tu as expliqué l'origine de ton film, j'ai pas expliqué l'origine du bouquin. L'origine du bouquin, c'est que j'ai rencontré un chercheur, donc universitaire, qui lui défendait, il disait, il se voulait humaniste, et il avait l'air de l'être, il était plutôt sincère, je pense. Et il disait, bon, l'Afrique est en proie à des conflits, les armées occidentales ne veulent pas intervenir parce que les opinions publiques n'accepteraient pas qu'il y ait des morts, parce que ça coûte cher, etc. Donc, face à cet égoïsme des grandes puissances, il faut quand même agir. Et on a des mercenaires qui sont prêts à agir dès lors qu'on les paye. Et le jour où on cesse de les payer, ils s'en vont, et du coup on est débarrassé aussi de leurs problèmes. Donc il avait développé tout un argumentaire disant que le marché peut contribuer au rétablissement de la paix en Afrique et ailleurs. Et ce sera l'ONU qui paiera, et donc ça respectera les cadres du droit des peuples, etc., etc. Et ça m'avait effrayé ce discours, parce que ça paraissait découler du bon sens. Oui, c'est moins cher, oui, après tout, ils ont aussi intérêt à ce que leur réputation soit bonne, alors ils respecteront les droits. Et oui, ils seront plus efficaces que les casques bleus, parce que quand on déploie les casques bleus, ça coûte cher, c'est le bordel, ils se font parfois kidnapper, etc. Bref, tac, 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 on avait une série assez impressionnante d'arguments super convaincants. Et heureusement, certaines de mes analyses antérieures me faisaient douter quand même grandement de la validité de ces arguments, mais ça me paraissait effrayant parce que ça pouvait être de nature à arriver en France, et je l'avais rencontré à l'étranger. Et donc je me disais, ça colle trop bien au néolibéralisme, à cette version du capitalisme qui privatise tout. Donc j'ai voulu contrer ça, donc j'ai fait un peu le bilan de la liste de tous les arguments qui se développaient, il y en a plein, et puis j'ai essayé de voir dans quelle mesure ils étaient valides ou pas. Et aucun n'est valide, mais il fallait aller chercher les exemples, faire un travail théorique aussi de contre-argumentaire, en s'appuyant sur des arguments économiques, politiques, de droit, enfin tout ce qu'on voulait. Et, mais c'est un discours qu'on va avoir de plus en plus, clairement.
Voilà, c'était donc Xavier Renoux qui présentait le jeudi 28 septembre au CICP, le CICP 21 Terre rue Voltaire, on vous en parle souvent, qui présentait son livre « La privatisation de la violence ». Et c'était une conférence, rencontre organisée par la librairie Quilombo. La librairie Quilombo qui se trouve, elle, non pas 21 Terre, mais 21 rue Voltaire, dans le 11e à Paris, et qui est une librairie plutôt libertaire et qui diffuse tout un tas d'ouvrages très intéressants, y compris ce... Donc, la privatisation de la violence de Xavier Renoux, mercenaire et société militaire privée au service du marché. C'est chez Agon et c'est dans la collection Dossier Noir. La collection Dossier Noir, c'est organisé par deux assos qui sont Survie et Agir Ici. Voilà.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Ah là là, qu'est-ce qu'il est bien ce générique, qu'est-ce qu'il est bien. Alors, quand on est à du monde, on fait de l'ouvrage. La preuve, ce soir, autour des boutons, autour des micros, on avait avec nous les mercenaires assoiffés de sang de la radio libre, indépendante et laïque. Il y avait donc Guillaume Yom et ses disques pourris. Ces disques qui sont un outil redoutable de déstabilisation psychologique de l'adversaire. Il y avait aussi Juliette, Jérémy, Cédric et Alex qui sont actuellement en train de faire des bombes incendiaires avec les cadavres des 120 canettes de bière qui se sont enfilées durant l'émission. Il y avait aussi l'autre Juliette qui est restée dans son lit, victime manifestement d'un dommage collatéral dû à une pratique radiophonique risquée. La semaine prochaine, si tout va bien, on entendra une interview de Eric Hazan à propos de son livre LQR. Et si vous voulez réécouter les émissions des semaines précédentes et celle-ci, vous pouvez vous rendre sur le site des Oreilles Loin du Front, LOLDF, comme les Oreilles Loin du Front, loldf.free.fr. Et tout de suite, on vous abandonne avec Claudia, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid.